Et l'on va débuter les matins avec le journal de Claire Fauchel. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. D'abord Le Havre ce matin, puis Charleville-Mézières dès cet après-midi. Ce sont les deux premières villes à organiser une campagne de dépistage massif du Covid-19. Les autorités sanitaires comptent sur ces opérations de grande ampleur pour freiner l'épidémie dans ces villes et pour mieux comprendre les chaînes de transmission du virus.
Les restaurateurs, les cafetiers, les patrons de discothèques, des professionnels du tourisme aussi vont manifester partout en France à la mi-journée à Paris. Ce sera sur l'esplanade des Invalides. Ils réclament une réouverture le plus rapidement possible dans le respect d'un protocole sanitaire strict.
À la une également, Joe Biden, officiellement désigné vainqueur de la présidentielle aux États-Unis par le vote des grands électeurs aujourd'hui, alors que les Républicains continuent à penser qu'on leur a volé l'élection. L'espion qui venait du froid et tant d'autres, John le Carré, le célèbre auteur britannique de romans d'espionnage, est mort à l'âge de 89 ans. Il a vendu plus de 60 millions de livres à travers le monde. John le Carré avait été agent secret avant de se lancer dans l'écriture. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Et la question du jour, Guillaume Erner ?
Eh bien, pénurie de masques, que s'est-il passé ? Je poserai la question à Alain Milon. Il est sénateur Les Républicains du Vaucluse et vice-président de la commission des affaires sociales et de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion du Covid-19.
Des campagnes massives de dépistage à partir d'aujourd'hui au Havre et à Charleville-Mézières. Deux agglomérations volontaires avant Roubaix et Saint-Étienne le mois prochain. Opération gratuite sans rendez-vous sur la base du volontariat. Alors ces dépistages à grande échelle seront-ils efficaces ? La question divise la communauté scientifique. Véronique Julia.
L'objectif d'un tel dépistage, c'est de repérer les cas positifs qui s'ignorent, les asymptomatiques qui passent sous les radars et donc de réduire en les isolant la circulation du virus. De ce point de vue, faire ça la semaine avant Noël est une très bonne idée, estime le professeur de santé publique Philippe Amouyel. Et même si les tests antigéniques qui seront majoritairement utilisés sont moins sensibles que les tests PCR, ce sera quand même d'après lui très utile.
Si vous le faites pas, vous passez à côté de tous les asymptomatiques. Si vous le faites, vous allez avoir deux asymptomatiques sur trois. C'est quand même pas mal.
Mais les habitants seront-ils au rendez-vous ? Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, tous ces efforts ne serviront à rien si la population ne se mobilise pas massivement.
Si on ne dépiste qu'un quart de la population, c'est comme si on avait des souris dans un immeuble et qu'on envoyait le dératiseur dans un étage sur quatre.
Critique également l'épidémiologiste Renaud Piaroux, pas convaincu par l'opération du même type déjà menée à Liverpool en Grande-Bretagne.
On n'a pas les éléments pour dire qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant à Liverpool. En regardant en même temps Liverpool et Manchester, je ne fais pas la différence entre les deux courbes.
À l'échelle d'une seule agglomération qui n'est pas isolée du monde, sans certitude de tester le plus grand nombre, avec qui plus est un test en une seule fois plutôt que des tests réguliers tous les 15 jours, certains ont des doutes sur l'efficacité de ce dispositif qui leur semble davantage un moyen d'expérimenter une logistique à grande échelle.
Véronique Julia, l'épidémie continue de stagner dans notre pays. 11 000 nouveaux cas hier, encore 2800 malades en réanimation. Les restaurateurs et les gérants de discothèques manifestent aujourd'hui à 13h à Paris et partout en France pour réclamer la réouverture de leurs établissements. Tous les acteurs de la filière souffrent, Laura Dulieu.
Sandrine Lesgourg est productrice de foie gras dans le Périgord. À l'approche des fêtes, elle essaye de rester positive.
On a fabriqué davantage, on a congelé. Là, on arrive proche de Noël, donc certains restaurants ont pu prendre un peu de marchandises pour vendre eux directement aux consommateurs. Et après, j'ai le consommateur final qui vient me trouver. Voilà. Mais moi, j'ai maintenu ma production. J'aide mes producteurs et puis on fait le tampon.
Et pour les restaurants, la colère gronde. Avec le couvre-feu, la livraison après 20h restera possible, mais pas la vente à emporter. Incompréhensible, selon Franck Delvaux, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France. Selon lui, tout n'est pas fait pour aider la filière.
Pourquoi on ne peut pas aller chercher une pizza, un hamburger, un bœuf bourguignon après 20h ? La prise en charge des pertes d'exploitation avec les assureurs, c'est pas réglé. Et puis deuxièmement, les loyers. Si un bailleur ne veut rien faire, il est en droit de réclamer ses 12 mois de loyer à un restaurant ou un bar qui a été fermé 6 mois.
Et puis il n'y a pas que les producteurs derrière les hôtels et les restaurants, il y a aussi d'autres métiers moins évidents, les blanchisseries par exemple. Celle de Cyril Coria en Essonne est particulièrement touchée.
Le mois dernier, nous avons fait 6% de chiffre d'affaires. Donc nous avons à peu près 300 clients au total et on a à peu près une dizaine de clients qui restent ouverts. Quand vous ouvrez une usine que vous avez 40 draps au lieu d'en avoir 40 000, forcément vous êtes dans une situation très compliquée.
Situation d'autant plus compliquée qu'avec une centaine de salariés, sa blanchisserie n'est pas éligible au fonds de solidarité réservé pour ce secteur aux entreprises de moins de 50 salariés.
Emmanuel Macron donne rendez-vous ce soir à la Convention citoyenne pour le climat. Le chef de l'État promet une discussion franche et directe avec les citoyens de cette convention qui lui reprochent d'avoir détricoté leur plan pour faire baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre en France. Le président devrait annoncer les derniers arbitrages sur le projet de loi climat qui doit être prêt pour la fin janvier.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Claire Fauchel. L'Allemagne s'apprête à se reconfiner partiellement mercredi pour 3 semaines et demie.
Fermeture des commerces dits non essentiels et des écoles notamment. Des contacts très restreints autorisés pour Noël. Alors que les chiffres de l'épidémie repartent à la hausse, 30 000 cas quotidiens enregistrés ces derniers jours en Allemagne. Mais certaines régions n'attendent pas plus longtemps pour agir. La Bavière a reconfiné dès la semaine dernière et la Saxe s'y met aujourd'hui, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Reportage à Meyessen de notre correspondant en Allemagne, Ludovic Piétenu.
Les cloches de ce temple protestant, la Frauenkirche, brisent le silence qui a envahi cette ville de 30 000 habitants. Ce troisième dimanche de l'Avent, c'est le seul lieu un peu fréquenté qui permet à Brigitta, une retraitée, de sortir de son confinement.
Ça va mal en ce moment, très mal. On a plusieurs cas positifs dans la famille. Encore un nouveau hier. Oui, c'est Dieu.
Bernd Oehler est ici le pasteur depuis 21 ans.
J'avais devant moi ce matin des parents qui venaient de perdre leur fils de 39 ans. Et ils n'étaient pas les seuls dans ce cas. Il y a des destins difficiles en ce moment. J'ai des gens qui viennent se plaindre parce qu'il leur est insupportable de porter un masque. C'est un comportement indigne.
Et ce n'est pas un cas isolé en Saxe. Bastion de l'extrême droite AfD qui a réalisé à Meissen parmi ses meilleurs résultats électoraux, deux voisines, Cora et Annette, font leur balade du dimanche, insouciante.
C'est logique que les infections augmentent. On teste 5 fois plus de monde, mais la réalité, c'est qu'il y en a autant qu'avant. Et puis, en novembre-décembre, on a toujours une vague de grippe ou un rhume, une angine. Mais là, rien. Il n'y a que le coronavirus.
Aucune d'elles ne porte un masque.
Le coronavirus, ce n'est rien d'autre qu'une grippe. Et on l'oubliera vite.
Sa voisine, Cora, ajoute: les gens ont changé avec le coronavirus. Ils sont devenus tellement agressifs et égoïstes. On cherche à nous terroriser, conclut-elle. On crée la panique dans les têtes.
Et Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture en Allemagne. Les États-Unis est le pays le plus endeuillé au monde, une épidémie hors de contrôle. La campagne de vaccination qui commence aujourd'hui s'annonce donc intense. 3 millions de doses doivent être inoculées d'ici ce soir. Toujours aux États-Unis, presque un mois et demi après l'élection du 3 novembre, c'est aujourd'hui que le collège électoral va officiellement désigner le vainqueur de cette présidentielle. Sans surprise, ce sera Joe Biden. Les grands électeurs vont se réunir dans chacun des 50 États américains. Et à la fin de la journée, le candidat démocrate devrait recueillir 306 votes de grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Le président sortant pourtant continue de contester sa défaite et une partie de ses supporters continue de penser que l'élection a été truquée. Reportage à Washington, signé Grégory Phillips.
Ils étaient encore quelques milliers à défiler ce week-end dans les rues de Washington pour dénoncer, encore une fois, une fraude massive à la présidentielle du 3 novembre. Parce qu'on pense que cette élection nous a été volée, confie Hélène, venue de Floride. Les démocrates ont triché de toutes les manières possibles. Ils ont fait voter des morts, des adolescents. Certains ont voté 5 ou 6 fois. On pense que ça a été un raz-de-marée, mais dans l'autre sens. Un sondage publié ce week-end par Fox News montre que 68% des républicains pensent effectivement que l'élection a été truquée pour empêcher Donald Trump de gagner. Alors Denis, venu manifester depuis la Caroline du Nord, n'attend absolument rien des grands électeurs tout à l'heure. D'ailleurs, il est à deux doigts de penser qu'ils font partie d'un complot plus large contre le président sortant. À quoi je m'attends ? Un gros bordel. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est ce que les médias ont voulu et les Big Pharma. Mais on va continuer à se battre. Et dans 2 ans, on gagnera la Chambre des représentants. Dans 4 ans, la Maison Blanche. Et si ce n'est pas avec Trump, ce sera avec quelqu'un d'autre qui aussi veut rendre sa grandeur à l'Amérique. Quant au président sortant, il n'a plus aucun recours possible. En fin de semaine dernière, la Cour suprême a rejeté la requête déposée par les autorités du Texas. Mais Trump va se battre jusqu'à la passation de pouvoir. Croit savoir Troy, dans ce même sondage Fox News, une majorité d'Américains 56% considèrent que Donald Trump affaiblit la démocratie avec ses recours.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture à Washington. Il était le maître incontesté du roman d'espionnage. Il a vendu plus de 60 millions de livres dans le monde entier. David Cornwell, alias John le Carré, est mort samedi soir à l'âge de 89 ans. On l'a appris cette nuit. Il a succombé à une pneumonie. Le Britannique, auteur de L'espion qui venait du froid ou de La Constance du jardinier, lui-même ancien des services secrets. En 2018, le journaliste François Bunel lui avait consacré une émission dans la grande librairie sur France 5. John le Carré avait reçu le critique littéraire chez lui en Cornouailles, l'occasion de se confier sur les raisons qui l'avaient poussé à quitter le monde de l'espionnage pour celui du roman d'espionnage.
Tout d'abord, je n'étais pas un très bon espion. Je réfléchissais trop, je me posais trop de questions sur des choses que je n'aurais pas dû mettre en cause. Mais lorsque je suis arrivé en Allemagne, à Bonn, puis à Berlin, pour la construction du mur, j'ai commencé à penser que nos provocations du côté occidental, nos manipulations, l'immense énergie déployée dans l'anticommunisme, c'était nous qui étions en fait en train de créer l'ennemi que nous voulions avoir. Et aussi, j'ai commencé à écrire. Et quand c'est arrivé, j'ai eu le sentiment de pouvoir voler.
L'écrivain John le Carré en 2018.
Et il sera question de John le Carré. Un hommage dans la grande table à 12h55 aujourd'hui.
Le temps de ce lundi 14 décembre, la perturbation pluvieuse se décale très lentement vers l'est et donne des pluies faibles en matinée des Pays de la Loire vers la frontière belge en passant par le bassin parisien. Plus à l'ouest, après une matinée agréable avec des éclaircies sur la Bretagne, la Normandie et le Pas-de-Calais, le ciel se charge l'après-midi et les averses deviennent fréquentes, voire orageuses. Les maximales sont en légère hausse sur la moitié est avec 8 à 13 degrés alors qu'il fait 12 à 15 à l'ouest. Localement, 17 sur le Pays Bas et en Corse.
Merci beaucoup Claire Frochel. Dans quelques instants, sur France Culture, le reportage de la rédaction qui va revenir sur le décès d'un adolescent sénégalais de 14 ans, Doudou Faye, mort mi-octobre dans une pirogue en partance vers les Canaries. Et puis dans quelques secondes, la question du jour, pénurie de masques. Que s'est-il passé? Je poserai la question à Alain Milon. Il préside la commission d'enquête du Sénat sur la gestion du Covid-19.